Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Alcide Ponga, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et président du Rassemblement. Bonjour.
Bonjour Elisabeth, bonjour aux auditeurs et aux auditrices.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est sous votre casquette de président du Rassemblement que vous êtes signataire de l'accord de Bougival. C'est bien sûr ce qui fait l'actualité aujourd'hui en Calédonie. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un accord ? Est-ce que c'est un projet d'accord ? Est-ce que c'est un compromis politique ? Comment vous le définissez, ce document que vous avez signé ?
Déjà, Elisabeth, je voudrais juste rappeler le contexte global dans lequel on arrive ou qui nous fait arriver à Bougival. 2021, le dernier référendum. Et depuis 2021, un rodéo des discussions à deux, à trois, à trois et demi, à quatre, etc., etc. Donc c'est important de le rappeler, c'est-à-dire que 2021, on est en 2025. Donc c'est quatre ans de tentatives, de discussions, d'échecs, de réussites. On a consommé un nombre de ministres des Outre-mer ou de ministres de l'Intérieur chargés des Outre-mer également. Et donc, la population, les Calédoniens en général, il faut qu'on se remémore et qu'on se rappelle d'où on vient pour arriver à ce compromis de Bougival.
Donc, juste avant, il y avait eu en plus l'échec de Deva.
Et en passant aussi par Deva, hein, je veux dire, depuis 2021, on est passé aussi par Deva. Et on arrive à ce que, moi aussi, je qualifie de compromis de Bougival. On a écrit « accord », mais pourquoi est-ce que je qualifie de compromis ? C'est un compromis parce que c'est la façon dont ça s'est passé. C'est-à-dire, les partis qui sont opposés se sont assis et ont commencé à discuter pour savoir quels sont les compromis possibles d'une part et d'autre, et pour pouvoir avancer. Et en parlant aussi de ces compromis, ces propres compromis, chacun a aussi tracé ses lignes rouges là où on ne peut pas aller plus loin, de part et d'autre. Et ben, ce document, qui est pour l'instant un document politique, parce qu'il y a tout un travail derrière, légal, constitutionnel, pour savoir comment est-ce qu'on peut inscrire les idées, les accords et les compromis politiques qui sortent de ce document, comment est-ce qu'on peut l'intégrer de façon juridique dans la Constitution française, dans l'organisation, dans la gouvernance de la Nouvelle-Calédonie, comment est-ce qu'on s'organise, etc., etc. Donc voilà, c'est le document qui a été posé aux Calédoniens. Et, si je me souviens bien, beaucoup de personnes souhaitaient qu'on puisse, à un moment donné, avancer. Et avancer, on ne peut pas avancer tout seul. On est en Calédonie avec des blocs, deux gros blocs, qui s'opposent depuis, qui se sont affrontés, qui se sont exprimés pendant les référendums, alors que le précédent président du Rassemblement de l'époque avait dit « n'y allons pas au référendum, trouvons un autre chemin ». On y est allé au référendum, on s'est fracassé sur ces deux référendums. Eh bien, on s'est retrouvé là, à ce moment-là de Bougival, mais depuis 2021, on s'est retrouvé à ce qui était prévu aux accords, dans l'accord de Nouméa, après les résultats des trois noms du référendum, c'est écrit, les partenaires examineront la situation ainsi créée. Et donc, on a essayé d'examiner la situation ainsi créée avec l'État, avec les partenaires, avec l'ensemble, et il en est ressorti ce compromis qui s'appelle accord de Bougival.
Alors, vous dites, chacun a mis un peu ses lignes rouges. Dans ce qu'on peut considérer comme des avancées pour les partisans de la France, et vous allez nous dire si c'est l'essentiel pour vous, c'est un accord pérenne sans référendum d'autodétermination, c'est l'ouverture du corps électoral, c'est le rééquilibrage du Congrès. Qu'est-ce qui vous semble le plus important là-dedans ? Et est-ce que vous estimez que c'est effectivement des avancées pour vous, des acquis pour vous ?
Mais déjà, Elisabeth, quand je parle de compromis, c'est vrai qu'on entend aujourd'hui beaucoup, pas mal, de gens qui sont... Mais c'est sur les réseaux sociaux, hein ? Parce que quand je marche dans la rue, moi, je trouve beaucoup de personnes qui sont contents parce qu'on a trouvé quelque chose. Mais sur les réseaux sociaux... De chaque parti, que ce soit à l'extrême de ma droite ou à l'extrême de ma gauche, on entend beaucoup de déçus. Mais je comprends les déçus, parce que quand on fait un compromis, ben, on n'a pas réussi à avoir 100% de ce qu'on veut, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais c'est ça le principe du compromis et de l'accord. C'est que chacun n'a pas 100% de ce qu'il veut. Et l'autre n'a pas 100% de ce qu'il veut. Parce que pour que l'un ou l'autre puisse avoir 100% de ce qu'il veut, et je l'ai dit sur d'autres antennes, vous avez des exemples dans le monde de communautés qui s'opposent aujourd'hui. Vous avez des exemples. Quand vous allumez la télé le matin, ben vous voyez ce qui se passe dans le monde. Vous voyez ce qui se passe dans le monde quand je veux 100% de ce que je veux ou que l'autre côté veut 100% de ce qu'il veut. Je veux dire, j'ai pas besoin de faire un dessin. Quand vous allumez la télé, vous avez dans le monde tout ce qui se passe. Ben, je trouve, moi, que ceux, les responsables d'aujourd'hui, même si on peut les critiquer de élus périmés, etc., et tout, les responsables qui ont pris leur courage et leur responsabilité à Bougival, se sont dit, on ne fera pas comme les autres communautés dans le monde qui se font la guerre. On va mettre les choses sur la table et on va essayer d'avancer ensemble en se faisant des compromis. C'est ça le sens de ce qui a été fait.
Alors, un compromis, on avait compris, vous n'avez pas obtenu 100% de ce que vous vouliez. Il y a quand même des choses qui vous semblent aller dans le bon sens. Et donc, je vous disais, qu'est-ce qui vous semble le plus important dans cet accord,
de votre point de vue ? On n'a pas arrêté pendant ces dernières années de réclamer les résultats des 3 référendums, de dire que les gens calédoniens ont voté majoritairement pour rester dans la France. Ben, on est dans la France. Ce qui a été fait à Bougival, c'est pour y rester. Oui, on a travaillé pour dire qu'on pousse la question de la citoyenneté vers une éventuelle nationalité qui reste dans la Constitution française et avec la nationalité française. Mais on est français. Et ça, c'était une des lignes rouges qu'on avait fixées. Il y a d'autres intérêts qu'on voulait. On voulait, par exemple, un statut définitif parce que 3 fois non, etc. et tout. Non, dans les discussions, dans les échanges qu'on a eus, on s'est dit, on met un statut pérenne. Mais on ne met plus de date pour que les Calédoniens ils s'affrontent sur un référendum. Et ça, on s'est tous accordés ensemble dessus. Je tiens à le dire à l'antenne. Emmanuel Macron, quand il ouvre le sommet, il nous dit, en sortant de là, de l'Élysée, ben écoutez, vous allez faire 15, 20 ans et puis vous referez un référendum sur, entre un tel projet ou tel projet. Mais vous savez quoi ? Nous, les élus calédoniens, on a dit non, on ne veut plus de référendum. On ne veut plus. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On met dans un process, etc. Et tout, on a mis un statut pérenne. Certes,
Il y a une possibilité de transfert des compétences régaliennes.
Il y a des possibilités sur les transferts de compétences régaliennes, etc., avec un dispositif qui est mis en place pour pouvoir gérer cela et pour se dire que si un jour ça se fait, c'est que la majorité de la population calédonienne l'aura décidé. Et c'est ça la subtilité de Bougival, c'est de dire arrêtons de nous bagarrer sur la question « je veux être indépendant, je ne veux pas être indépendant », mettons-nous autour de la table, reconstruisons notre pays, essayons de faire peut-être ce qu'on n'a pas fait pendant les 30-40 ans parce qu'on s'est disputé, parce qu'il y avait la date qui est arrivée du référendum, là. Construisons, faisons les choses ensemble, apprenons à nous connaître mieux, nos histoires. On parle souvent des histoires, mais chacun a son histoire en Calédonie. Je veux dire, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à mettre sur la table à un moment donné. Les histoires des Mélanésiens, les réserves, tout ce qui s'est passé à la communauté mélanésienne ici. Il faut qu'on puisse écrire, qu'on puisse se le partager. L'histoire des Calédoniens issus du bagne, etc. Il faut qu'on puisse partager ensemble tout ça. L'histoire des Calédoniens libres, des colons libres qui sont arrivés. Et puis, mais tout ça à un moment donné. Ben,
donc il faut du
pour
temps.
Pour moi, il faut du temps qu'on puisse se connaître mieux, se partager les choses. Moi, je dis souvent, on parle des histoires de drapeaux, etc. Et tout, mais nos histoires communes, on ne connaît pas. Les petits canards, ils ne savent pas les histoires des Calédoniens, etc. Et, tout. Et les Calédoniens, ils ne savent pas forcément les histoires des canards dans les réserves et tout ça. Mais à un moment donné, il faut qu'on puisse pleurer ensemble sur nos histoires et qu'on puisse se dire, on travaille ensemble, on construit ensemble. Les générations futures décideront. Et là, ce qu'il y a, c'est qu'on ne s'est pas mis cette date de référendum parce qu'ensemble, on ne voulait plus mettre un couperet sur la tête de nos enfants et de nos petits-enfants. Ça fait partie aussi des choses sur lesquelles on s'est accordé là-dessus.
La réouverture du corps électoral, ça a été compliqué ou ça rentre également dans cet ensemble, dans la création d'une nationalité calédonienne, ce qui fait que le corps électoral sera quand même soumis à l'appartenance à l'appartenance à la nationalité calédonienne.
Oui, il y a une petite subtilité sur la question du corps électoral parce que pour les prochaines élections qui arrivent en 2026, il y a une durée qui est les conditions elles sont un peu plus dures que ce que l'on voulait.
15 ans de résidence.
Voilà. Mais ça, on va dire que dans les discussions qu'on a eues entre nous, c'était aussi pour accompagner un peu la pression que nos collègues avaient vis-à-vis de ce qui s'est passé l'année dernière. Pour la suite, moi je le dis souvent, je l'ai dit en réunion en présence des ministres, en présence de mes collègues indépendantistes, quand on construit un pays, quand on veut faire un pays, on le fait pour des gens, pour des hommes et des femmes. On ne le fait pas pour les cochons sauvages ou les cerfs ou... On construit un pays pour des hommes et des femmes, nos enfants et nos petits-enfants. Donc, on ne peut pas s'enfermer sur nous-mêmes. Et si on a parlé de construire, de pousser cette citoyenneté jusqu'à dire nationalité, ben il faut qu'on commence à parler de tout ça. Je veux dire, qui peut rentrer, qui peut sortir? Ce sont les conditions qu'on a posées de départ en se disant, on fait ces choses-là. Mais je vais aller plus loin. Je prends ma casquette de président de gouvernement. Mais quand on construit un pays, mais il faut des hommes, il faut des consommateurs, il faut des gens pour travailler, il faut des gens pour payer des impôts, il faut des gens pour faire de l'économie, il faut des gens pour planter des salades, qu'on arrête de faire venir des salades de la Nouvelle-Zélande ou du GCO, il faut des gens pour faire de l'élevage. Il faut tout ça. Mais tout ça, il faut des gens. Et donc, la population, elle respire. Elle respire. Il y a des gens qui partent. Cette semaine, au gouvernement, on m'a demandé si on pouvait, si on pouvait recenser les Calédoniens qui étaient en dehors de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, on est 265 000. Ce qui a été ressorti de l'ISEE. Mais la population, c'est quelque chose qui ça respire. Il y en a qui partent, il y en a qui arrivent, il y en a qui naissent, il y en a qui meurent. Donc, le principe du corps électoral, ça doit aller aussi dans ce sens-là et respecter cette règle-là. On ne peut pas construire le pays de demain en s'enfermant sur nous-mêmes, sinon on va mourir. Et les enfants aujourd'hui, les familles d'aujourd'hui, ce n'est pas les familles d'hier. Nous, on est 7 dans la famille. Et moi, aujourd'hui, j'ai que 3 enfants. Ben, demain, je ne sais pas, mes enfants, ils auront combien d'enfants? Donc attention! Quand on se referme, ça donne pas, s'il n'y a pas de population, ben on ne fait pas un pays. Voilà, c'est tout.
Comment réagissent, reprenez votre casquette de président du Rassemblement, comment réagissent les adhérents, les sympathisants du Rassemblement face à l'accord de Bougival? Ils ont compris les lignes rouges, les concessions à faire, ils ont accepté cet accord ou vous avez beaucoup de questions, voire des critiques?
Vous savez, Elisabeth, je vais faire un peu de chauvinisme, mais le Rassemblement, il était à l'accord de Matignon. Le Rassemblement, il était aussi aux discussions de Naville-les-Roches à l'époque, même s'ils n'ont pas validé les éléments. Le Rassemblement, il était en 98, à l'accord de Nouméa. Et le Rassemblement, il est encore là, pour discuter, et puis à discuter sur l'accord de Bougival. On est revenu, et... ce que vivent peut-être aujourd'hui certains de nos collègues où c'est un peu plus difficile d'expliquer les choses, c'est pas facile aussi pour nous. Mais il faut expliquer les choses. Il faut parler d'avancer. Et je l'ai redit tout à l'heure, quand on discute sur un accord ou quand on met en place des compromis, c'est-à-dire qu'on avance avec l'autre. Et avancer avec l'autre, c'est de savoir de temps en temps lâcher, savoir défendre des points ou lâcher ici et là. Et je dois vous dire que les sympathisants. On est arrivé le mardi soir et le mercredi, le lendemain, on avait 250 personnes à la permanence du rassemblement. Il y a eu des questions, il y a eu des réponses, et c'est normal qu'il y ait des questions. Et les Calédoniens, il faut qu'ils posent des questions pour qu'on puisse les éclairer et qu'ils puissent aussi nous dire « Ah tiens, on a peut-être oublié tel ou tel point » et puis qu'on puisse se travailler. Mais de façon globale, c'est les gens comprennent. Les gens comprennent et veulent avancer. Les gens, ils veulent avancer. Ils veulent plus qu'on soit dans un no man's land, là où on ne sait pas, on est accroché. Est-ce qu'on est accroché encore à Nouméa ? Est-ce qu'on n'est plus accroché ? On flotte en l'air, là ? Non, il y a quelque chose qui est tracé. Il y a un chemin qui est là où on a décidé de partir ensemble et de faire ensemble. Et aujourd'hui, on avance. Et moi, je continue le travail sur le terrain. D'ailleurs, la semaine prochaine, je suis dans le Nord.
Alors, il faut faire avec l'autre, justement. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude, enfin, du rejet aujourd'hui affirmé, affiché par l'Union calédonienne de l'accord de Bougival, même si il a 3 signataires, du rejet probable du FLNKS, il doit se réunir le 9 août, mais ça a l'air mal parti. Est-ce que ça remet en cause, est-ce que vous comprenez déjà ce refus, alors que vous l'avez travaillé ensemble, cet accord ? Et est-ce que ça remet en cause l'existence même de l'accord de Bougival, si un partenaire aussi important que l'UC et que le FLNKS s'en désengage ?
Écoutez, Elisabeth, le rassemblement est engagé dans cet accord, les loyalistes le sont aussi, Calédonie Ensemble, l'Éveil Océanien et l'UNI, Palika, l'UPM, l'UNID, le sont. Voilà. Les collègues du FLNKS se prononceront, mais j'ai cru entendre dimanche soir la position du RDO qui respecte la signature de son président. C'est pas anodin que la majorité des leaders politiques et des responsables de partis qui soient là ont souhaité porter cet accord. C'est plus compliqué pour les collègues de l'Union calédonienne et notamment pour les composants du FLNKS qui y sont maintenant. Je dis qu'ils y sont maintenant parce que l'UNI s'est retiré un peu du FLNKS depuis quelques temps. Je dis c'est d'autant dommage que vous avez un signataire qui est député de la nation, qui a été largement élu en Calédonie, et c'est son concurrent qui le dit. Et donc, pour moi, je pense que le député a signé en toute conscience. Et il l'a signé, certes, mais son collègue n'était pas loin non plus. Donc, on était là, on a vu. C'est dommage que un parti ou une composante se positionne ainsi alors qu'il y a des signatures qui les ont engagés à Bougival. Mais écoutez, il y a un autre rendez-vous que moi j'aimerais bien mettre mon accent dessus. C'est le rendez-vous des Calédoniens qui devront se prononcer s'ils valident ou pas l'accord.
En février 2026,
en
a priori.
En février 2026. Et celui-là, c'est un rendez-vous important. C'est pas le président du Rassemblement et sa vice-présidente qui ont participé aux discussions tout seuls. C'est pas le président de l'Association des maires qui est plus est le président du parti tous calédoniens tout seul qui va décider si c'est bon ou si c'est pas bon. C'est pas Sonia Bakres tout seul, c'est pas le député Mesdorf tout seul, c'est pas Adolphe Digoué, mon collègue membre du gouvernement, qui a l'Unipalika tout seul qui va le décider. Ce sont les Calédoniens. Et moi, je pense que le travail des politiques a été fait jusqu'ici. Je l'ai rappelé tout à l'heure, ça vient depuis 2021, hein, en passant par toutes les péripéties. Et on va arriver à 2026 où les Calédoniens, chaque Calédonien, qu'il soit ici ou qu'il soit ailleurs, qui vote encore ici en Calédonie, devra décider et valider ou pas cet accord. Charge au parti, chaque parti, de se dire je suis pour, je suis contre, etc. Et tout. Puis c'est un travail démocratique. On veut construire un pays de demain.
Donc il faut continuer le processus comme si de rien n'était, comme si l'UC n'avait pas dit non, comme si le FLNKS ne va peut-être pas dire non. On continue.
Moi, de ce que je sais, c'est que j'ai reçu un courrier du ministre qui nous a dit il faut maintenant qu'on puisse mettre en place le comité de rédaction et qu'on travaille, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un accord politique. Maintenant, il faut mettre tout ça dans les cases de la réglementation, de la législation, etc., etc., de la constitutionnalité.
Vous allez y participer au comité de rédaction ?
Oui. Je pense que nos équipes participeront. Je ne sais pas si moi-même j'y participerai, mais nos équipes y participeront pour pouvoir respecter l'esprit de l'accord. J'ose espérer, moi, que tous ceux qui ont participé et qui ont agréé cet accord de Bougival puissent participer. Et c'est l'occasion de préciser les choses, s'il y a des choses qui ne sont pas précises, etc., etc. Mais pour moi, le ministre nous a dit, et ça, il nous l'avait dit, en étant Bougival, on a fait l'acte politique, il faut continuer derrière parce qu'il y a du travail avant février 2026. Mais je pense que le rendez-vous de février, à un moment donné, les partis ont fait leur boulot, il faut laisser la place à la démocratie pour s'exprimer.
Alors, c'est un accord politique, mais il y a aussi un volet économique. Il est un peu succinct, tout le monde l'a dit, ça a été peut-être fait un peu à l'arrache à la fin des discussions. On y parle notamment de la filière nickel, on sait que c'est l'un des sujets dans lesquels vous êtes un expert. On parle d'une nouvelle doctrine concernant le nickel et d'une aide nécessaire de l'État. Est-ce qu'il va s'impliquer pour relancer la filière et est-ce que ce n'est pas indispensable aujourd'hui ?
Déjà, sur toute la partie économique, il y a un gros pôle d'abord qui est celui... des dépenses de la Nouvelle-Calédonie, des dépenses publiques, l'assainissement des comptes de la Nouvelle-Calédonie. Donc ça, l'État nous a dit, et c'est écrit, qu'il nous aidera, nous accompagnera sur ce point-là. D'ailleurs, il y a Claire Durieux qui a été nommée, dans la commission interministérielle pour pouvoir nous accompagner. Elle sera ici dans les semaines qui viennent pour qu'on puisse travailler et faire les choses. D'ailleurs, on commence à faire les choses. Le gouvernement, cette semaine, a voté sa délibération cadre qui devra être soumise au Congrès dans les jours qui viennent en commission et notamment en séance publique pour qu'on puisse ensemble dire voilà le plan de réforme qu'on veut mettre en place sur un laps de temps sur lequel on se sera accordé pour contribuer à assainir les comptes publics de la Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est un point. Vous avez abordé le deuxième point qui est celui de nickel, dans lequel les... Moi, je vais dire ce que j'ai dit quand on a parlé de cette question nickel. J'ai invité l'ensemble de nos partenaires, indépendantistes, non-indépendantistes, à s'asseoir du même côté de la table quand on parle de nickel. Je veux dire, on connaît tous aujourd'hui la situation du nickel. Les usines, il y en a une qui est fermée dans le nord pour des raisons économiques. Celles, les deux qui sont dans le sud, tiennent aujourd'hui parce que l'État finance. Je veux dire, c'est un secret pour personne. Si l'État arrête de financer, ça ferme. Donc à un moment donné, nous, responsables politiques calédoniens, on arrête de se disputer ou de se chamailler sur la question du nickel. Il faut se mettre du même côté de la table et qu'on puisse se dire, voilà comment est-ce qu'on voit les choses. Et on l'a dit à Bougival, on l'a dit. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un équilibre, que l'usine du Nord puisse redémarrer, qu'il y ait dans le Sud, etc., etc.
Qu'il y ait de l'export de minerais.
Mais, et aussi, on l'a dit aussi. On l'a dit en présence des représentants de l'UNI qui étaient ici, dont on accuse souvent sur la question de doctrine nickel. Mais pour moi, je pense qu'on pense tous la même chose. Ce que je dis juste, c'est que de dire à un moment donné, soyons du même côté de la table, portant notre industrie minière et métallurgique haut face à la concurrence du marché, pas face à nous, entre nous ici, pas à SLN contre SMSP ou contre MAI ou contre eux, etc. etc. Non, il n'est pas là le combat. Le combat, il est sur le marché international. Donc c'est ce qu'on s'est dit. Mais je vais finir en disant aussi que les responsables calédoniens doivent contribuer à créer une atmosphère qui puisse donner envie aux investisseurs pour revenir et investir sur le nickel calédonien. Ce n'est pas le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou les provinces ou je ne sais pas qui vont investir dessus. On a déjà plus d'argent pour pouvoir assumer nos responsabilités en termes de politique publique. Donc, je considère que notre rôle à nous, c'est de créer les conditions, non seulement politiques, mais réglementaires, sociales, etc., etc., pour que des investisseurs puissent se dire « ben, ça m'intéresse de revenir » en Calédonie pour investir. Et un investisseur qui vient en Calédonie pour investir, ça recrée de la richesse, ça redonne des emplois dans nos mines, dans nos usines, etc. etc. Donc c'est l'essentiel de ce qui est sorti de cet accord. On a aussi mentionné la question de l'énergie, parce que vous savez qu'aujourd'hui...
Là, il y a besoin d'aide de l'État.
Voilà. L'énergie aujourd'hui en Calédonie, c'est soit du fioul lourd, soit c'est du charbon. Christopher Gigès travaille fort pour essayer de développer tout ce qui est solaire. Depuis des années, ça avance. Il y a une batterie, une des plus grosses batteries de France et puis d'Europe qui va être installée, si tout est peaufiné d'ici là, à Boulou-Paris. Mais il y a l'énergie solaire qui se développe ici. On peut développer autre chose. Il nous faut une énergie pas chère et une énergie décarbonée pour que les investisseurs puissent revenir aussi en Nouvelle-Calédonie et nous aider à développer notre industrie. Mais pas que du nickel. Je veux dire l'industrie en général et l'économie en général. Mais, comme vous l'avez dit, on a besoin de l'aide de l'État ou de l'Europe pour nous aider à avoir cette énergie pas chère et décarbonée.
Ah, justement, le ministre des Outre-mer a répété hier ou avant-hier que sans accord, il n'y aura pas d'aide de l'État. C'est quelque chose qui vous inquiète ? Ça vous incite à pousser l'accord, à faire en sorte que l'accord soit effectivement validé ?
Écoutez, je ne vais pas parler à la place du ministre, mais je vais parler en tant que président du gouvernement, en vous disant que si le gouvernement n'a pas d'aide de l'État, eh ben je ne sais pas faire. Voilà. Je ne sais pas faire aujourd'hui, parce que déjà que pour boucler le budget de 2025, on a eu besoin de l'aide de l'État. Donc ils nous ont versé une première tranche. Aujourd'hui, on est en train de batailler pour essayer d'avoir la deuxième tranche de ce qui nous a été donné pour 2025. Ce n'est pas encore acté. Il y a des conditions qui sont inscrites dans le prêt que nous avons signé avec moi-même et Emmanuel Valls. Et je comprends parfaitement quand le ministre le dit. Je veux dire, il nous demande d'avancer. Et si on avance, il nous accompagne. Je veux dire, mais si on n'avance pas, pourquoi est-ce qu'il nous accompagnerait ? Je veux dire, oui, moi je le comprends, le ministre, hein, même si ça ne me convient pas en tant que président de gouvernement, parce que moi j'ai besoin de l'aide de l'État pour boucler les budgets, pour avancer, pour assumer les responsabilités qui sont les miennes au gouvernement avec mes 10 collègues du gouvernement. Donc, oui, quand il le dit, il faut le prendre au sérieux et il faut faire attention à ce qu'on fait.
Alors justement, vous avez présenté, enfin le gouvernement a présenté un plan détaillé des réformes budgétaires, sociales et fiscales cette semaine. Et il s'agit de rétablir les comptes sociaux et de redresser les finances publiques. C'est ambitieux, vous pensez que vous allez y arriver ?
Écoutez, je pense que c'est une nécessité. La question de l'ambition ou pas, enfin, moi je veux vous dire, je suis arrivé à la présidence du gouvernement sans ambition. Moi je suis arrivé pour faire des choses, donc je fais des choses. Je ne suis peut-être pas souvent sur les médias ou sur les réseaux sociaux pour dire ce que j'essaie de faire avancer avec mes collègues, parce que c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas le travail du président tout seul, c'est le travail des 11 membres du gouvernement. Et donc je salue la responsabilité des 11 membres du gouvernement ce mercredi d'avoir accompagné le travail qui a été fait par Thierry Santa et Christopher Gigès pour pouvoir présenter un plan de réforme. Mais le plan de réforme, c'est quoi ? Le plan de réforme, c'est globalement des axes sur lesquels on va devoir avancer. Tant sur la fiscalité, tant sur des économies de coûts, etc., etc., etc. Ce plan de réforme, il va se compléter aussi avec un pacte d'assainissement ou, je veux dire, qui porte sur les réformes, un pacte qui va être fait avec l'État, qui va être travaillé avec l'État. Et donc, c'est la mission de Claire Durieux qui travaillera avec nous. Et donc, ce plan de réforme et ce pacte qu'on travaille avec l'État dans le cadre de l'accord Bougival doivent, à un moment donné, positionner la Calédonie dans une meilleure situation financière, économique et de dépenses publiques. C'est ça l'objectif de ce plan. Aujourd'hui, ce qu'on propose à l'État, c'est le cheminement qu'on va suivre. Dans ce cheminement, il y a des actions. Et donc mes collègues, que ce soit Thierry Santa ou Christopher Gigès, porteront ces sujets-là, un à un, au Congrès, pour qu'on puisse débattre avec nos collègues du Congrès, pour se dire qu'est-ce qu'on augmente, qu'est-ce qu'on baisse, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Et tout ça, on doit le faire aussi en même temps que de relancer l'économie avec l'aide de tout ce qui est reconstruction qui a été donné par l'État. Donc les chantiers démarrent tardivement, je le concède, mais il y a des choses qui vont démarrer parce que pour pouvoir également travailler sur des réformes, il faut aussi qu'on ait une économie qui reprenne.
Alors, il va y avoir notamment une diminution des dépenses publiques, hein, c'est indispensable, c'est incontournable. Est-ce que les Calédoniens sont prêts aujourd'hui aux efforts que vous allez leur demander, que le gouvernement va leur demander, alors que déjà ils sont dans une situation un peu catastrophique depuis plus d'un an maintenant.
Vous savez, Elisabeth, moi je vais prendre l'exemple de la continuité territoriale que les élus du Congrès ont voté à l'unanimité mardi. Ben ça, c'est un exemple où tout le monde, on accepte de travailler pour réduire les dépenses publiques. Ça fait partie des pistes. Et donc, il y en aura d'autres qui vont arriver. Vous me posez la question, est-ce que les Calédoniens vont accepter ou pas? Mais moi, j'ai envie de dire que... Mais on n'a pas le choix, Elisabeth. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Parce que les ressources du gouvernement qui sont générées par l'activité économique de la Nouvelle-Calédonie sont très, très, très limitées. Et si les activités économiques ne démarrent pas, si les mines ne produisent pas ce qu'ils produisent, ils doivent produire, si les investisseurs n'ont pas confiance, etc., et tout, on continue à semer le doute et puis qu'ils ne mettent pas de l'argent dans l'économie, ben vous savez pas quoi ? Les recettes fiscales du gouvernement, continueront à baisser. Et donc, ça sera compliqué. Donc, ces économies de dépenses s'imposeront à nous. Alors, si le ministre il nous dit qu'on n'a pas d'argent parce qu'on n'a pas validé, on n'a pas signé, alors je ne vous en parle même pas, Elisabeth. Donc, je fais exprès de pousser le bouchon aussi loin comme ça dans la réflexion. Mais on a travaillé sur la continuité territoriale ce lundi. Je remercie l'ensemble des élus du Congrès d'avoir accompagné cette piste d'économie. Il y en aura d'autres qui vont venir, parce qu'on est obligé de le faire. Et donc, les collègues du gouvernement et les collègues du Congrès, on débattra de façon démocratique sur l'ensemble de ces pistes d'économie, mais il va falloir les faire.
Alors, vous êtes président du gouvernement, vous avez aussi de nombreux secteurs à charge, et notamment celui de la sécurité civile. Vous avez prévu sa réorganisation. Alors, pourquoi ? Est-ce que c'est une nécessité ? Est-ce qu'il y a une urgence ? Est-ce qu'il y a tel dysfonctionnement qu'il faut tout remettre dans l'ordre ? Pourquoi vous emparer de ce sujet alors qu'il y en a plein d'autres ?
Oui, vous savez, Elisabeth, la sécurité civile, je veux dire, avec cette responsabilité-là qui m'incombe à moi en tant que président, c'est aussi la sécurité de tous les Calédoniens. Donc, quand je suis arrivé, j'ai trouvé certains dysfonctionnements au sein de cette direction. Et donc, depuis mon arrivée, on est en train de travailler pour restructurer, remettre les choses à plat, remettre à ce que les gens travaillent ensemble et qu'on puisse, on va dire, avancer ensemble et surtout, être paré à répondre en cas de nécessité pour aider les Calédoniens en cas de cyclone, en cas d'inondation, en cas de catastrophe, etc., etc. Parce que c'est notre travail. Donc aujourd'hui, c'est vrai que... j'en ai entendu des vertes et des pas mûres sur les réseaux, sur les médias, sur la question de la sécurité civile. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai demandé à mes équipes de recréer les conditions nécessaires pour que les équipes travaillent ensemble et de façon efficace, parce que c'est ce que les Calédoniens attendent.
Ah, il y a recrutement prévu éventuellement pour renforcer ou pour
Oui, il va y avoir dans le cadre de cette restructuration certainement des recrutements de responsables et tout pour pouvoir remettre à plat les choses et retrouver le rôle qui est le nôtre.
Autre secteur et pas des moindres dont vous êtes en charge, c'est celui des relations extérieures. On vous entend pas trop sur le sujet. C'est un secteur, faut le dire, un sujet dont parlent beaucoup les indépendantistes. En revanche, on sait qu'ils se déplacent assez régulièrement dans tous les pays de la zone et au-delà. Vous, comme président du gouvernement, vous avez le temps de vous consacrer un petit peu à ce dossier ?
Ah, c'est une bonne question. Surtout la question de la notion de temps. Est-ce qu'on a le temps ? Je vais vous avouer quelque chose, Elisabeth. Oui, il y a énormément de boulot en tant que président de gouvernement. Et donc, je n'ai pas forcément eu le temps de m'occuper, en tout cas dans la région, de cette question de relations internationales. On est en train de travailler avec mes équipes pour définir quelle stratégie le gouvernement veut mettre en place avec les pays de la région. Donc mes équipes travaillent dessus. Mais début juin, j'étais à Nice, accompagné du président de la République, accompagné de M. Broderson, le président de Tahiti, et du président de l'Assemblée territoriale de Wallis. Et donc, on a tenu une grande réunion présidée par Emmanuel Macron.
Le sommet avec... des océans,
c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça, le sommet des océans, mais voilà, Emmanuel Macron en a profité pour qu'on puisse avoir une réunion entre les différents chefs d'État et les différentes collectivités du Pacifique français pour pouvoir avoir des échanges avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec Nauru, avec Niue, avec les îles Marshall, etc., etc. Et donc, ça a été l'occasion pour moi de rencontrer un peu ces différents responsables. C'est vrai que je me déplace pas beaucoup, mais j'essaie d'être présent, et notamment ce matin, je suis intervenu encore sur ABC pour communiquer également avec le monde anglophone de la région et expliquer qu'est-ce qui se passe dans le cadre de ces accords. On n'a pas forcément besoin de se déplacer, mais d'ici la fin de l'année, il va y avoir le Forum des îles du Pacifique qui va se tenir, à Honiara. Et il y a également, les célébrations de la fête de Papouasie-Nouvelle-Guinée en septembre. Donc, je pense avec mes équipes que je m'y rendrai, notamment au Forum des îles du Pacifique, pour également représenter la Nouvelle-Calédonie, parce que ça rentre dans le cadre de mes fonctions en termes de relations internationales. Et je finirai en parlant de l'accord de Bougival, sur lequel nous avons avancé sur les questions de relations internationales.
Il y a carrément le transfert de la compétence des relations internationales.
Tout à fait, mais c'est également sous couvert des intérêts que la France a avec l'ensemble de la région. Donc, c'est un sujet sur lequel on s'est dit, OK, on y va là-dessus. La Nouvelle-Calédonie pourra avoir des relations directes avec les îles du Pacifique, mais qui ne vont pas à l'encontre de la France. Mais ça, je veux dire, ça se fait plus ou moins déjà. Je veux dire, quand on discute avec les Nouvelle-Zélande, Australie, etc., etc., on le fait dans le cadre des accords qu'il y a déjà entre la France et ces différents pays. Nous, on pourra signer des accords en direct, hein, de ce que j'ai compris dans ce qu'on s'est accordé là-bas à Bougival. Et donc voilà, il faudra le mettre en place, il faudra faire attention aux choses et il faudra qu'on avance. Seul sur les questions régaliennes, on n'aura pas le droit d'avoir des discussions en direct sur l'armée, sur la monnaie, etc. et tout, parce que ça reste au niveau de la France avec ces pays-là.
Et en plus, vous êtes parfaitement anglophone, ce qui aide pour avoir des relations dans la région.
Ben, ça aide surtout de pouvoir expliquer les subtilités calédoniennes à nos collègues du Pacifique, parce que, il faut expliquer les choses, aborder les choses d'un certain angle. Moi, j'essaie d'être le plus objectif possible. Et je pense que c'est apprécié. J'ai eu pas mal de retours des différentes interventions sur les différentes chaînes anglophones du Pacifique. C'est apprécié. Je leur ai dit que régulièrement, le président de gouvernement que je suis pourra intervenir pour pouvoir apporter des explications de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie.
Alcide Ponga, président du gouvernement, président du Rassemblement également. Merci d'accepter notre invitation dans ce magazine Transparence.
Merci beaucoup, Elisabeth, et merci aux auditeurs et aux auditrices.